CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus.
Bonjour à tous, le MAG du pays Midi-Quercy, merci d'être avec nous aujourd'hui, un MAG consacré aux dernières trouvailles du service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy, où on apprendra ce qu'était CFM Caylus juste avant d'être ce qu'il est maintenant. Mais avant ça, c'est à propos du Jardin des Gorges de l'Aveyron qui fête leurs 20 ans. Le MAG du pays Midi-Quercy, première partie d'édition où on va parler des jardins des Gorges de l'Aveyron dans le cadre de leur anniversaire des 20 ans. Pour nous présenter ces jardins, Sophie Passeguet-Perronne, sa directrice. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quels sont ces jardins? Alors on voit jardin de Cocagne. Qu'est-ce que c'est jardin de Cocagne?
Un jardin de Cocagne, c'est un jardin qui est adhérent au réseau Cocagne, qui est un réseau national. Le réseau Cocagne fédère une centaine de jardins en activité sur le territoire. Et ces jardins de Cocagne sont des chantiers d'insertion en maraîchage biologique. C'est-à-dire que c'est l'activité de maraîchage biologique qui est utilisée comme support d'insertion sociale et professionnelle pour des personnes de tous âges et avec une mixité qui rencontrent des difficultés à un moment donné dans leur vie.
Alors, vous êtes basé à Fénérols,
à côté de Saint-Antonin-Noble-Val, et au bord de l'Aveyron.
Et ben, d'où les jardins, j'imagine.
Voilà, d'où, donc sur un terrain qui est un terrain de alluvionnaire de bonne qualité, sur lequel on arrive à faire, depuis 20 ans, à produire de beaux légumes en bio.
Alors avant de parler du contenu de votre anniversaire qui aura lieu donc le samedi 21 toute la journée, est-ce que vous pouvez très rapidement quelques chiffres nous dire depuis les 20 ans que vous existez, comment ça s'est passé, combien de personnes vous avez pu accueillir dans vos jardins, combien de paniers vous arrivez à produire?
Alors j'ai élaboré des statistiques sur les jardins en amont des 20 ans. Là je les ai pas sous les yeux. Pour dresser un tableau, les jardins depuis 20 ans, c'est 370 personnes qui ont été salariées, dont plus de 330 personnes avec un contrat des salariés en insertion socio-pro. Puisqu'il y a également donc des salariés permanents qui jouent un rôle d'encadrement des personnes et puis aussi sur la gestion administrative, financière et commerciale de la structure. C'est intéressant de souligner que à 77%, ce sont des personnes qui résident sur les territoires de la communauté de communes QRGA, quartier Rouergorge Gorge de l'Aveyron, et que un quart de ces salariés sont habités au moment de leur embauche la commune de Saint-Antonin. Donc on a quand même un rôle de pôle d'emploi de proximité important par rapport au bourg de Saint-Antonin. En nombre d'adhérents depuis 1999, c'est quasiment 2500 adhérents cumulés, donc des personnes qui ont pris leur adhésion, qui ont pu l'arrêter ou qui sont même toujours adhérents. Puisqu'il faut savoir qu'on a 35% de nos adhérents actuels qui sont fidèles à notre offre panier hebdomadaire depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc on a une grosse, je dirais, stabilité et fidélité des adhérents. Après la question des paniers, ben depuis 2006, c'est 150 000 paniers. J'ai pas de chiffres qui remontent à plus tôt, mais évidemment les paniers ont démarré en 2000, donc il y a également eu des paniers confectionnés entre 2000 et 2006. Voilà, donc 150 000 paniers. Aujourd'hui, c'est 240 paniers semaine qui sont confectionnés et livrés ou que les gens viennent chercher sur le jardin.
Alors vous parliez de l'importance du territoire pour ces jardins des Gorges de l'Aveyron. Ce sera justement un petit peu le sujet qui sera proposé lors de ce samedi 21, le sujet d'un atelier débat qui sera coopération entre Jardin de Cocagne et autres acteurs sur le territoire. Un atelier qui sera animé par Christian Dutertre. Alors rapidement, il est économiste, directeur scientifique du laboratoire de recherche et d'intervention Athémis, présidente de l'Institut européen de la fonctionnalité et de la coopération et spécialiste du travail et nouveaux modèles économiques durables.
C'est beaucoup de médailles, mais pour faire plus simple, on va dire que Christian Duterte, c'est quelqu'un d'abord d'éminemment sympathique, qui collabore depuis quelques années avec le réseau Cocagne, et en particulier sur la thématique du travail et de la façon dont on vit les uns et les autres notre travail, et aussi sur les jardins de Cocagne. C'est quelqu'un qui est extrêmement abordable dans sa façon de parler de ces thématiques, et qui est passionnant à écouter, et je l'ai déjà entendu à deux reprises, et toutes les personnes qui étaient avec moi étaient également conquises. Donc c'est super intéressant, c'est simple dans le vocabulaire, c'est l'intérêt de venir écouter Christian Duterte, c'est de vraiment se donner pas mal d'idées. Moi, ça m'en a donné en tout cas en tant que directrice des jardins sur la façon d'aborder certaines problématiques ou certaines thématiques en tant que structure employeuse de main d'œuvre. L'atelier débat du matin, on l'a conçu pour les élus du territoire et des personnes qui travaillent dans des structures liées à l'emploi ou autour de nous, mais aussi pour le public du territoire en général. En gros, le thème de cet atelier débat, c'est de quelle manière les jardins peuvent nouer toutes sortes de coopérations avec des acteurs autour d'eux, dans le but de mener au mieux leur mission d'insertion socio-professionnelle des personnes qui y travaillent. Voilà, donc on est déjà dans cette dynamique, en particulier on a lié des relations avec le club d'entreprise du territoire Adré. Voilà, on est en train de diversifier nos partenariats avec des acteurs sur cette thématique de l'emploi des personnes. Ceci dit, ça prend beaucoup de temps, et puis on est sur un territoire où il n'y a pas tant que ça d'entreprises employeuses, et c'est pas toujours facile. Voilà.
Et donc les entreprises sont largement les bienvenues, hein, pour découvrir ce que sont ces jardins des gorges de l'Aveyron.
Oui, tout à fait. C'est une cible de communication que j'ai peut-être négligée jusqu'à aujourd'hui par rapport aux 20 ans. Mais j'ai quand même envoyé l'invitation à Adré. Donc normalement, il devrait y avoir des entreprises du territoire qui sont informées.
Et en parlant de travail, la conférence de l'après-midi, qui sera, elle, je crois, à 15h, là, c'est quoi ce travail ?
Alors, c'est quoi ce travail ? C'est l'intitulé d'un blog qui est lié au site internet du réseau Cocagne. C'est un blog du réseau Cocagne sur lequel sont compilés, rassemblés, des interventions sur le thème du travail et de qu'est-ce que le travail aujourd'hui, comment il est ressenti, comment il est perçu, comment il est vécu. Parce que le travail, c'est une très grosse partie de notre vie. Hein, c'est un gros volume horaire sur nos semaines, à condition qu'on en ait. C'est là aussi que c'est intéressant à regarder. Et donc, Christian Duterte a toute une réflexion et des analyses très liées au concret, hein, parce qu'il se balade beaucoup. C'est pas juste du blabla de laboratoire de recherche. Il a toute une analyse et tout un regard sur la question du travail en tant que préoccupation. Qu'est-ce qui se joue dans le travail? Qu'est-ce qu'on y projette et qu'est-ce qu'on y fait réellement? La notion de l'engagement dans le travail, la notion de la reconnaissance sur son lieu de travail, du travail que l'on fournit, etc. Voilà, donc là aussi, pas mal de choses passionnantes à écouter.
Et qui sont complètement liées à votre vocation d'insertion sociale et professionnelle. En fait, vous avez vraiment double casquette, un producteur et un serreur.
Oui, tout à fait. Les jardins, c'est assez particulier parce que on est à la fois complètement une entreprise, dans le sens où on produit et que cette production, elle doit être vendue, parce que c'est ce qui assure au moins un tiers de nos ressources financières. Et puis par ailleurs, on est dans le social et avec un statut de chantier d'insertion qui est un statut très particulier et qui nous amène à parfois être un peu dans un grand écart. C'est ce que j'évoquais aussi dans un sujet de 6 minutes qui a été tourné sur les jardins au mois d'avril par France 3 Occitanie, et qui a d'ailleurs été rediffusé hier dans le cadre d'une émission matinale qui s'appelle Ensemble, c'est mieux. Et donc, les jardins étaient représentés par le vice-président des réseaux, du réseau national, pardon, et relais régional Occitanie, une salariée actuelle des jardins, et également une adhérente de Toulouse. Donc, c'est bien cette chose-là qui ressort, c'est qu'on est à la fois, on donne du boulot à des gens, il faut qu'on soit rentable et productif, et en même temps, parfois, ces personnes, elles sont pas, on peut pas être vis-à-vis d'elles dans une exigence d'ultra-productivité, d'ultra-rentabilité, c'est pas possible. Donc, on compose avec tout ça, et puis on essaye surtout d'avoir la plus grande bienveillance possible, tout en restant employeur au sens fort, quoi.
Et vous êtes soutenu notamment par le Pays Midi-Quercy à travers le programme européen Leader et en partenariat, je crois, avec le PLI, le plan local d'insertion pour l'emploi.
Alors, le PLI, on n'en est plus vraiment adhérent, mais on a quand même des relations de travail régulièrement avec eux. Concernant Leader, ça me plaît bien que vous l'évoquiez, puisque on a un projet de chantier formation, enfin sous forme de formation interne sur le jardin qui va démarrer début octobre, pour agrandir notre cuisine salle commune qui est pas du tout adaptée à notre effectif actuel et à notre fonctionnement actuel. Et donc on a sollicité des fonds leaders via le pays pour nous aider à financer le coût de cette construction sous forme de chantier formation.
On peut retrouver toutes les informations sur les Jardins des Gorges des Aveyrons sur www.cocagne82.com. Mais le mieux pour tout savoir, c'est quand même de venir. Hein. C'est ce samedi 21, pour un atelier débat à 11h et pour une conférence à 15h. C'est donc à Fénérol. Et on vous retrouvera là-bas, Sophie.
Oui, j'aimerais quand même donner un petit peu de lisibilité sur le reste de la journée, parce qu'il n'y a pas que des choses, disons, de réflexion et de construction de la pensée, et des coopérations et tout ça. Il y a aussi plein de choses. Il y a des stands, des ateliers, des animations. Il y a d'autres jardins de Cocagne, d'Occitanie qui seront présents. Il y aura une tombola gourmande, il y aura des projections, des expositions, des installations, des performances artistiques, la possibilité de se balader en vélo électrique prêté, mis à disposition autour des jardins, de la restauration, de la musique, etc., etc.
Et plein de légumes.
Voilà. Et plein de légumes à manger le midi, oui, entre autres, au moment du repas.
On pourra aussi rencontrer forcément les adhérents et vos salariés, on peut dire ça?
Oui, nos adhérents, nos salariés, nos partenaires. Et puis voilà, j'espère que c'est une journée qui va mixer beaucoup de gens. Nos voisins aussi, parce qu'on est bien implantés, bien connus sur la commune. Et je pense qu'il y a pas mal de gens de la commune, de voisins qui vont passer aussi. Des producteurs, parce qu'on a des partenariats de travail avec des producteurs locaux. Des élus, je l'espère. Voilà. Notre objectif, il n'est pas tant de nous mettre en avant, nous, les jardins des Gorges de l'Aveyron, juste notre structure à nous, parce que, bon, en fait, nos 20 ans, évidemment, on en est très, très contents, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Mais après, on est une structure qui se porte plutôt bien, mais on souhaiterait être encore mieux connue, reconnue, soutenue. Et surtout, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le concept Cocagne. Voilà, toute la richesse du concept Jardin de Cocagne et ce qu'elle peut apporter sur son territoire, autour d'elle et avec toutes les personnes qui peuvent avoir des tenants et aboutissants en termes de relations avec nous, quelles qu'elles soient. Voilà, toutes sortes de liens et de partenariats sont possibles et souhaitables.
www.cocagne82.com ou ce samedi 21 à Fénérol. Bon, on peut carrément passer la journée. Hein.
C'est ça, de 10h à 19h.
Merci beaucoup.
Sans modération.
Merci beaucoup Sophie Passeguet-Perron, donc la directrice de ces Jardins des Gorges de l'Aveyron qui vont fêter leurs 20 ans ce samedi 21. Merci beaucoup et puis à samedi.
Merci
alors.
Merci à vous. Au revoir.
Dans quelques instants, juste après la musique, on parle de ce qu'était CFM Quélu, c'est la place qui l'environne grâce au service inventaire du patrimoine. À ma plus grande joie, je dois le dire. Birds flying high, you know.
sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, deuxième partie d'édition où l'on apprendra que le studio de CFM Radio à Quélus est situé dans une décharge. On en parle avec le service inventaire du patrimoine, Carole Stadnitsky, bonjour.
Bonjour.
Et Sandrine Rueflé, bonjour tout pareil.
Bonjour.
On va parler précisément de cette place où est situé donc le CFM Quélus, ainsi que la médiathèque, le Fab Lab, le CRE et la maison de service au public, un joli fourmillement qui en fait date vraiment pas d'hier.
C'est une belle introduction, en revanche c'est pas très valorisant pour le local de CFM.
On y est bien.
Alors, en effet, sur les plans que Léopold Gardel a dressés en 1873, c'est vrai qu'ici au rez-de-chaussée, il est indiqué que c'est une décharge, mais il faut entendre ça comme un local de stockage en fait, du réfectoire des élèves qui est juste à côté. Voilà, parce qu'en fait ici on est dans un vaste bâtiment très représentatif de la 3e République, hein. C'est une école type Jules Ferry, qui a été donc construite entre 1874 et 1877 par cet architecte Léopold Gardel qui est bien connu en Tarn-et-Garonne. Il a fait d'autres réalisations à Montauban. Sandrine, lesquelles?
Oui, c'est un architecte qui est un architecte montalbanais, hein, qui a exercé à la ville de Montauban à partir de 1865 et qui a bâti plutôt de vastes équipements publics ou religieux comme le lycée de garçons à Montauban, la Banque de France. Carole parle du groupe scolaire de Quélus, mais il y a aussi l'école de Sept-Fonds et puis le groupe scolaire de Nègrepelisse. Voilà, donc il a exercé jusqu'à la fin du 19e. Il a aussi été architecte diocésain, ce qui a valu la construction d'églises comme l'église d'Auty.
Alors, c'était justement une chapelle aussi. Alors, on parle de l'école, mais avant ça, il y avait... C'est l'époque médiévale.
Ah bah absolument, Quélus a une histoire bien antérieure à la construction en fin 19e de cette école, hein, évidemment. Et c'était le cas ici. On le sait grâce aux plans anciens, cadastres anciens qui ont été conservés. Alors on n'est pas remonté au-delà du 18e siècle. Il y avait probablement quelque chose évidemment avant le 18e. Mais on sait grâce à un plan de 1780 qui est conservé aux archives départementales. C'est un plan assez fabuleux, hein, qui donne un état de Quélus à la fin du 18e. Et grâce à ce plan, on sait que à cet emplacement-là, justement, il y avait déjà une maison de la communauté des filles. C'est indiqué comme ça sur le plan. Donc ça veut dire qu'il s'agissait déjà à l'époque d'un établissement religieux, en fait, hein, d'un couvent pour l'éducation des filles. Et du coup, il y avait une chapelle, comme il se doit, en sous-bassement ici, qu'on voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sert de...
C'est la cyberbase du Fab Lab.
C'est la cyberbase, voilà. Et ben, c'était avant la chapelle. Lors des travaux en 2007, on avait pu prendre en photo les vitraux en fait encore en place de cette chapelle. Et d'ailleurs, les ouvertures n'ont pas été modifiées. On retrouve vraiment l'emplacement de la chapelle. Ce qui a changé, on le sait grâce au plan de la fin du 19e siècle, c'est qu'avant, il y avait un petit chevet qui était arrondi, qui maintenant est plat, hein, en fait. On ne voit plus cet arrondi-là. Ce mur a été démoli lorsqu'on a fait les travaux de cette école de filles. Donc, en effet, ça a été un couvent religieux à la fin du 18e siècle. On sait qu'au 19e siècle, tout cet emplacement ici a aussi servi de gendarmerie. Avant qu'on reconstruise la gendarmerie qu'on connaît en haut de l'avenue du Perruque.
Les pompiers aussi.
Voilà, ça c'est également pendant une période servi pour les pompiers. Mais ça c'était après qu'on reconstruise du coup cette immense école de filles de Caylus telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle est exactement, c'est assez étonnant de voir ça, mais elle est exactement comme elle a été prévue sur le plan de 1873 de Gardel. Vraiment, les dessins de l'élévation qui est sur la place du Perruque, c'est les mêmes fenêtres, les mêmes petites briques, les mêmes petits agrafes.
La volonté d'ordonnancement aussi, de régularité de cette façade qu'on va retrouver dans d'autres architectures d'écoles de la Troisième République, de cette fin de 19e, une certaine rigueur. Et puis si on peut revenir à l'école, à l'arrière, on a cette façade qui suit hein, la rue, l'avenue du Perruque, mais à l'arrière, on avait la cour de l'école, une vaste cour qui a engendré, lors de sa création, sa volonté de création par Gardel, qui a engendré pas mal de chamboulements, on va dire, au niveau du bâti que l'on peut avoir autour.
Il y a des
rues
qui ont été bouchées.
Voilà. Il y a des rues bouchées, on a comblé cet espace, et il y avait d'ailleurs une ruelle qui allait de la rue du Long jusqu'à cette cour, qui a entièrement été bouché à cette période, à cette fin 19e.
1875, précisément. C'est écrit très précisément dans les carnets d'attachement, en fait, du maçon, enfin, de l'entrepreneur de travaux publics, en fait, qui s'occupe de faire le chantier. Et on sait précisément à quel moment, justement, elle a été bouchée, cette ruelle. Ouais.
Ce qui, voilà, donc, a modifié. Est-ce qu'aujourd'hui, le centre de ressources économiques, toute la façade, enfin, cette ruelle bordait une de ces façades. Et au moment des travaux, on pouvait voir encore des portes anciennes, des portes, on parlait tout à l'heure de médiéval, mais là, il y avait ces portes qui attestaient d'une présence de maison au XIIIe siècle.
Et là, actuellement, donc sur la place, CFM Radio, nous avons la cour supérieure de l'école. La cour inférieure est en fait la place actuelle qui est devant le Fab Lab. Et on voit encore les grosses poutres qui sont...
Les poteaux du préau, oui, tout à fait.
Du préau.
Et les poteaux du préau sont également mentionnés dans le carnet d'attachement dont je vous parlais tout à l'heure. Il est mentionné d'ailleurs qu'il pose à cette époque 6 poteaux. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 4. Mais bon, pour l'essentiel, ce sont les poteaux d'origine. Il est dessiné précisément la charpente également de ce préau. Tout est rebâti à la fin du 19e siècle pour l'usage de l'école.
Question un petit peu plus personnelle par rapport à votre travail. Vous donc recherchez, vous farfouillez partout, vous regardez ce qui a été fait, ce qui a été détruit, ce qui a été reconstruit à travers les archives départementales notamment. Vous avez plein de petits documents. Qu'est-ce que vous pensez de cette place là actuelle qui a été refaite donc il y a vraiment pas longtemps? Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh ben, elle a retrouvé la vie qu'elle devait avoir à la fin du 19e. Ça devait être un endroit plein de vie, plein de cris, une cour avec c'est un endroit à nouveau qui est réinvesti par d'autres personnes aujourd'hui, mais où l'on a envie de venir, où l'on a envie de s'asseoir, où on a envie de passer du temps, échanger. C'est de nouveau un lieu vivant.
C'est vrai que
c'est une réussite.
Oui, moi, je suis assez d'accord avec Sandrine, c'est un lieu de vie agréable, vraiment, en fait. C'est vrai que c'est lumineux, on a envie de s'asseoir sur le petit banc en arrondi, là, en bois. Oui, c'est un espace vraiment convivial, en effet, qui est agréable.
Vous êtes passé juste avant de rentrer dans les studios de CFM, vous disiez, mais dis donc, cet escalier, il est d'origine.
Exact, il occupe l'emplacement d'origine, encore une fois, sur les plans de Léopold Gardel. Et il y a de grandes chances, en effet, que ce soit l'escalier dessiné à l'époque par l'architecte et donc réalisé par l'entrepreneur Étienne Cally et le maçon de l'époque, oui, tout à fait. Voire, pour l'escalier, c'était probablement un menuisier, hein, d'ailleurs, qui a fait le travail. A priori, c'est pas le maçon qui a construit l'escalier.
Alors vous avez tout référencé dans vos documents, vous voyez jour par jour, presque heure par heure, qui a fait quoi,
pour combien, mois par mois, ou semaine par semaine.
Est-ce qu'on va avoir droit à peut-être un compte-rendu, une conférence, comme vous le faites régulièrement, à propos de certains lieux particuliers, donc sur cette place de Caylus, qui n'a pas encore de nom quand même, on peut le dire.
On espère restituer, et on souhaite le faire avant la fin de l'année, restituer certaines découvertes, comme ce bâtiment-là, mais comme d'autres qui ont pu être découverts à Puy-la-Roc. On a notre collègue Alexis Allerang, là, qui étudie en ce moment la commune de Puy-la-Roc. Donc, cette conférence, ça sera aussi l'occasion de présenter certains bâtiments de Puy-la-Roc, ou encore des demeures, une demeure à Léojac, un château exceptionnel, château de Longzègue à Nègrepelisse. Ce sera peut-être l'occasion pour nous de revenir et d'annoncer cette conférence avant, qui aura lieu sur avant la fin de l'année.
Oh bon, moi, j'y serai en tout cas.
C'est vrai qu'on a développé ce nouveau concept en fait de conférence de découverte de l'inventaire qu'on appelle les dernières découvertes de l'inventaire et qui marche assez bien. On a qu'un seul antécédent puisque la première on l'a faite le 2 juillet dernier à Montricou. Mais c'est vrai que c'est un concept qui a plu. On a eu de bons retours de piocher ça et là des éléments assez disparates à travers tout le territoire.
Du béton à la terre crue.
Voilà, tout à fait. Ouais. C'était assez plaisant, on a eu de bons retours, donc on va le renouveler en effet avant la fin de l'année, hein, fin 2019, on va essayer.
Peut-être la parution d'un autre joli bouquin ?
Ce serait bien,
oui. J'espère.
En tout cas, les données sont accessibles sur Internet, hein, d'ores et déjà. Tout le résultat de ces travaux sont accessibles sur le portail ressources de la région Occitanie. Et même bientôt, pas encore, mais sur le site du ministère de la Culture qui s'appelle Pop Culture, puisque voilà, les données sont également versées sur ces deux sites-là, donc un site national et un site régional.
Donc n'hésitez pas à aller consulter toutes ces données.
Le travail ne reste pas enfermé dans des placards.
Ou dans des postes radio. Sandrine Ruefli, Carole Stadnitsky du service inventaire du patrimoine, je vous laisse le mot de la fin. J'adore ce moment.
Longue vie à la cour supérieure du Fab Lab et de l'ancienne école de filles de Kélus.
Au revoir.
Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.